14h, 16h. Vivre le confinement autrement sur Success Radio.
Bienvenue sur ce podcast où vous allez découvrir l'entreprise, le métier, le parcours et la gestion du confinement d'un de nos invités reçus dans l'émission Vivre le confinement autrement. Pour retrouver l'ensemble de nos contenus, rendez-vous sur success-media.fr ou bien sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jeannine Audégon.
Bonjour Arnaud.
Merci d'être avec nous sur Success Radio cet après-midi, de prendre du temps. Alors vous êtes avocate spécialiste en propriété intellectuelle, on va parler des marques, des modèles déposés, des droits d'auteur et puis un petit peu de RGPD aussi, cette loi qui fait parler beaucoup parler d'elle depuis maintenant un an puisque c'est devenu obligatoire, presque deux ans même, sur la protection des données personnelles. C'est un certain nombre de choses que nous allons voir avec vous. Jeannine, vous avez votre propre cabinet qui porte le même nom que vous ?
Tout à fait, voilà. J'ai ma propre marque.
En nom propre que vous avez déposé. On va en parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter la subtilité qu'il y a entre un avocat et un avocat spécialiste ?
Alors effectivement, dans le cadre du barreau, vous avez donc tous les avocats sont inscrits auprès d'un barreau, et moi en particulier du barreau de Lille. Oui. Et donc nous avons des spécialistes qui sont référencés, c'est-à-dire en fait des avocats qui ont fait reconnaître le fait qu'ils aient une compétence particulière dans un domaine ou plusieurs domaines d'activité, et qu'ils exercent en priorité cette matière. Alors, c'est un examen, en quelque sorte, que nous passons devant une commission qui est composée donc d'avocats, de juges et de professeurs de droit, et qui nous délivrent un certificat si, effectivement, ils ont la certitude que nous exerçons de manière intelligente et appropriée de la matière qui va être référencée, puisqu'il y a une liste de matières et dont la propriété intellectuelle.
D'accord. Alors la propriété intellectuelle, c'est assez large, puisqu'on va aller de la marque et de la dépose de marque jusqu'aux droits d'auteur. Alors les droits d'auteur, on pense tout de suite aux artistes. Est-ce qu'il y a d'autres façons de traduire ce droit d'auteur ?
Alors, de manière plus précise, en fait, la propriété intellectuelle regroupe ce qu'on appelle la propriété industrielle, oui, qui donc fait l'objet d'un dépôt. Oui. Donc, ça concerne la marque, le brevet, les dessins modèles, oui, et le droit d'auteur. Donc, ce sont deux matières, en quelque sorte, un peu deux propriétés un peu différentes, puisque le droit d'auteur, effectivement, il n'y a pas de dépôt et il se prouve d'une manière différente, puisque on prend le critère de l'originalité par rapport à tout ce qui est le dépôt, où là c'est plutôt le critère de l'antériorité. Ouais. En matière de droit d'auteur, effectivement, nous avons tout ce qui est artiste, mais il y a des choses très diverses, puisque on peut également protéger par exemple un programme d'ordinateur. D'accord. Qui relève aussi du droit d'auteur. On peut protéger un site internet, l'apparence d'un site internet relève du droit d'auteur, un logiciel, il y a différentes manières d'évoquer le droit d'auteur, et ce n'est pas uniquement pour tout ce qui est chansons ou livres.
D'accord. Donc vous vous adressez plus particulièrement aux entreprises, j'imagine. Ces entreprises, peu importe la taille, peuvent faire appel au service d'un avocat spécialiste en propriété intellectuelle pour protéger. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que même si on est une TPE ou une TTPE, une très très petite entreprise, est-ce qu'on a besoin de ce genre de service, Jeannine ?
Oui, il est même primordial de s'en occuper dès que les entrepreneurs ont l'idée justement de lancer soit leur entreprise, soit une catégorie de produits particuliers. Je travaille beaucoup avec des startups, des jeunes entrepreneurs et aussi des personnes qui sont justement en voie de reconversion et qui ont un projet en tête. Et en fait, ils me consultent pour savoir si leur idée est protégeable et donc la meilleure manière d'obtenir une protection. Il est très important, en fait, de consulter avant de lancer le projet de manière à ce que la protection soit la plus large possible.
D'accord.
Une des choses dont on oublie l'importance, c'est la recherche d'antériorité. Vous savez que avec la communication qui est mondiale désormais, trouver une marque originale devient de plus en plus difficile, et donc il est primordial de faire une recherche d'antériorité qui permet d'aller voir tant au plan national mais aussi au plan international si le nom que l'on retient pour sa marque ou pour son entreprise ne risque pas d'entrer en concurrence avec une autre entreprise ou une autre marque. Il faut le faire avant, puisqu'il n'y a rien de pire que de lancer un produit ou une entreprise et de recevoir ensuite une opposition qui fait que toute la communication doit s'arrêter et que l'on doit recommencer avec une nouvelle entité, une nouvelle marque.
Et avec une amende à chaque fois, Janine, ou alors ça commence par un avertissement ?
Alors, ce n'est pas une amende. En fait, au début, on reçoit une lettre recommandée, soit effectivement, on prend le parti de répondre et de trouver un terrain d'entente, soit on ne s'accorde pas. En France, il y a la procédure d'opposition, et donc qui fait que nous discutons devant l'INPI. Donc, c'est une procédure qui n'est pas très chère, puisqu'il y a juste un droit d'opposition à régler à l'INPI et ensuite les frais du conseil. Mais si effectivement on loupe la procédure d'opposition, il faut ensuite faire une procédure devant le tribunal judiciaire. Il y a 10 tribunaux qui sont compétents en France et naturellement ce sont des frais qui sont plus conséquents. On peut être condamné à des dommages et intérêts, donc pas d'amende, mais des dommages et intérêts.
D'accord, donc vaut mieux effectivement se protéger donc à travers l'INPI effectivement, mais aussi à travers un avocat, puisque cette recherche d'antériorité, elle est complète lorsqu'on passe par un avocat. C'est-à-dire parce que l'INPI, on peut le faire, tout entrepreneur peut le faire tout seul, j'ai envie de dire, mais quand on fait cette recherche d'antériorité et puis des recherches un peu plus approfondies, vous avez des outils aussi qui vous permettent d'aller plus loin dans les recherches, il me semble.
Oui, et la différence aussi, c'est que nous donnons un avis, puisque l'INPI fait les recherches effectivement sur une base dont elle dispose. Elle vous livre les résultats de la base, mais vous n'avez pas de conseil. En fait, le conseil peut être tout simplement soit de modifier l'apparence de la marque, soit de modifier les intitulés dans les classes envisagées. Donc, il y a des conseils qui sont très utiles pour effectivement agrémenter la réflexion qui a été au départ lorsqu'on pense à un nom particulier pour la marque.
Et quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors ça concerne le nom et puis ça concerne aussi le design des logos et des couleurs, j'imagine, cette loi.
Alors, vous avez la possibilité de faire protéger effectivement le nom, le design, c'est-à-dire le logo. Maintenant, nous avons la possibilité aussi de déposer des marques sonores.
D'accord.
Des marques donc en 3D. Il y a donc un panel beaucoup plus important. Il faut savoir aussi qu'il est intéressant de réfléchir dans la même perspective lorsque vous créez quelque chose. Le choix de la dénomination sociale de l'entreprise, de son enseigne, qui peut être différente de la marque. Et ça peut être intéressant, effectivement, de ne pas forcément avoir le même nom pour la marque et pour l'entité juridique.
Afin, en cas de problème, pouvoir se rabattre sur l'un des deux.
Oui et non. En fait, les perspectives sont différentes selon les cas. Ce n'est pas uniquement se rabattre, mais c'est effectivement pour, par exemple, développer un système de franchise, si le produit ou le concept marche bien. Voilà.
D'accord.
Donc, il y a effectivement des perspectives à réfléchir qui sont évoquées lorsqu'on fait le rendez-vous.
Aujourd'hui, vous qui baignez dedans chaque jour, est-ce que vous diriez qu'il y a un réel risque? Parce que c'est vrai que pour un entrepreneur qui ouvre sa société, c'est peut-être pas la priorité, et désolé de le dire comme ça, mais pour le service juridique, parce qu'on n'y pense pas trop, parce qu'on se dit que ça arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, vous diriez qu'il y a un vrai risque? Les gens et les entreprises sont à l'affût de ce genre d'opposition et puis de forcément. Je ne sais pas si on peut parler de plagiat, mais de se piquer les marques, se piquer les concepts, etc. Est-ce que vous diriez que les entreprises sont en général regardantes là-dessus?
Alors, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une certaine facilité à vouloir user la renommée de certaines marques ou de certains concepts. Il y a ce que l'on appelle aussi l'action en parasitisme qui est très active devant les tribunaux, c'est-à-dire effectivement certains ont tendance à vouloir copier non pas dans sa globalité mais sur certains modèles, des marques ou des concepts. Donc j'interviens aussi devant les tribunaux donc en concurrence déloyale et parasitisme pour faire en sorte effectivement que l'on garde la spécificité et la création d'un concept original.
D'accord.
Donc ça effectivement toutes les entreprises peuvent être concernées et il y a toujours matière à sauvegarder en fait un savoir-faire et il y a aussi eu dernièrement des textes de loi qui sont passés pour protéger en fait le secret d'affaires.
Oui.
Et donc tout ce qui a pu être mis au point par des entreprises indépendamment notamment d'un brevet hein, mais des modalités très particulières qui doivent être protégées avant d'être révélées au public.
D'accord, donc c'est des choses auxquelles il faut faire vraiment attention pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou en devenir. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat, peut-être Janine d'ailleurs, pour protéger vos marques et vos concepts. Janine, on va parler un petit peu de votre parcours car j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à devenir avocate dans un premier temps et puis après de... Pour la spécialité que vous avez choisie, c'est-à-dire cette propriété intellectuelle, qu'est-ce qui vous a poussé à être avocate d'abord et après avoir choisi cette spécialité?
Alors, avocate, ce n'était pas forcément le premier choix, puisqu'en fait, quand j'ai commencé mes études de droit, je me destinais plus à la magistrature.
D'accord.
Et donc, j'ai passé effectivement d'abord le concours de la magistrature. Et en fait, comme je ne l'ai pas obtenu, je me suis intéressée à d'autres métiers. Et c'est vrai que je pense être quelqu'un qui n'a pas peur de parler. Donc, le barreau...
Ça s'entend.
le barreau, effectivement... m'a paru me correspondre et j'avoue que depuis donc 1990 où j'ai prêté serment, eh bien je n'ai pas été déçue par la profession.
D'accord. Alors vous devez prêter serment, ça se passe comment prêter? C'est-à-dire que vous
donc en fait alors à l'époque j'ai fait une année de formation après avoir obtenu le concours hein, pour rentrer à l'école d'avocat. Donc une formation d'un an et à la sortie nous devions en fait donc prêter serment mais exercer pour un autre cabinet d'avocats durant 3 à 5 ans afin ensuite d'accéder au grand tableau où là on devenait un avocat qui pouvait s'installer seul.
D'accord.
Ce que j'ai fait d'ailleurs au bout de 5 ans. Désormais la règle n'est plus tout à fait la même. On passe toujours, les étudiants passent toujours un concours pour accéder à la profession d'avocat, mais lorsqu'ils en sortent, ils peuvent exercer immédiatement sans nécessairement faire de la collaboration dans un autre cabinet d'avocat.
Si à cette époque vous aviez pu directement partir seul, est-ce que vous l'auriez fait ou alors ces 5 années vous ont appris et vous ont armé pour ouvrir votre propre cabinet par la suite?
Voilà, pour moi c'était de toute manière une étape obligatoire mais nécessaire aussi, puisqu'effectivement Cela permet de prendre une certaine assurance puisque nous sommes encadrés par d'autres avocats au sein d'un cabinet et donc nous voyons tout un panel de contentieux qui nous permet effectivement de savoir déjà peut-être là où vont aller nos préférences et puis de fréquenter les différentes juridictions.
D'accord.
Lorsqu'on arrive dans la profession, par exemple, nous sommes obligatoirement chargés de faire du droit pénal et de la commission d'office. Du moins, je vous parle quand j'ai commencé la profession. Hein.
Ouais.
Et donc, effectivement, c'est une école qui est très formatrice puisque on doit effectivement défendre au pied levé des personnes que l'on ne connaît pas très bien,
ouais,
et faire en sorte de les sortir de situations difficiles. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut aller chercher de ressources en nous, il faut faire preuve d'imagination et surtout être convaincant. Donc, c'est une très bonne école. J'avoue que pour la suite, je n'ai cependant pas été, je n'ai pas souhaité développer le droit pénal, si ce n'est effectivement de manière tout à fait subsidiaire quand j'interviens dans des dossiers de contrefaçon où effectivement je vais plaider devant le tribunal correctionnel.
D'accord.
Mais ce n'est plus du tout, je dirais, le pénal de la défense d'urgence.
D'accord.
Voilà.
Et alors, du coup, le choix de la spécialité, après, comment s'est-il présenté à vous pour la propriété intellectuelle ?
Donc, comme je vous l'expliquais, effectivement, au début, nous faisons beaucoup de matières.
Oui.
Et notamment, moi, j'avais beaucoup développé le droit de la famille, en fait.
Oui.
Mais c'est vrai que la démographie du barreau a été très forte à un moment donné. Et le nombre d'avocats a été multiplié par 3 en 15 ans.
D'accord.
Donc, il a fallu quand même réfléchir dans la mesure où on s'est aperçu que nous étions tous un peu sur le même contentieux, à savoir,
oui,
justement le droit de la famille ou le droit pénal. Et c'est pour cela que, au travers d'un dossier qui m'avait fortement intéressé sur le design d'un escalier, pour,
oui,
tout vous dire,
ah ben
eh bien,
oui,
j'ai voilà commencé à m'intéresser à la propriété intellectuelle. Je suis retournée à l'université faire des formations.
D'accord.
Et par la suite, j'ai même été invitée à donner des cours hein, sur la,
oui,
contrefaçon à la fac pour différents masters qui se créaient.
Mmh.
Et donc, j'ai pratiqué un savoir-faire plus spécifique donc sur tout ce qui est le design et la marque.
D'accord. Et c'est le,
voilà,
fait de recevoir des projets innovants et des créations qui vous plaît aujourd'hui, qui vous maintient dans cette spécialité ?
Voilà, tout à fait. C'est d'aider effectivement, parce que ce sont souvent des personnes qui ont des projets et qui arrivent sans savoir comment les mettre en forme et comment démarrer. Donc, c'est effectivement aider à monter le dossier, à faire en sorte que le rêve se réalise et puis après aussi à le protéger. La question de la protection est quand même très importante pour moi. C'est pourquoi, en général, je propose aussi de rédiger les contrats qui vont permettre de sécuriser la situation de l'entreprise, que ce soit les conditions générales de vente, par exemple des contrats de concession de logiciels, des contrats de partenariat dans le cadre d'une franchise. Donc voilà, il y a effectivement des choses à mettre en place pour garantir la sécurité juridique, car c'est grâce à la sécurité juridique qu'en général on peut prospérer et non pas seulement par le marketing.
Oui, j'imagine.
Alors, le développement du digital m'a amené également à nouveau à faire évoluer mon cabinet ces dernières années, puisque je me suis formée à la problématique de la protection des données personnelles,
oui,
et du droit à l'image. Donc voilà, je travaille donc avec un partenaire qui émane du monde de la sécurité informatique. Et donc, je suis amenée maintenant également à faire les audits pour rédiger les registres de traitement et proposer donc les outils à mettre en place pour ne pas se faire pirater, rançonner ou tout simplement sanctionner par la CNIL.
Donc finalement, ça fait un long moment que vous êtes avocate et spécialiste en propriété intellectuelle, mais vous ne cessez de renouveler votre métier.
Voilà, je pense qu'effectivement, il faut être prospectif.
Et puis, on sent un petit peu la volonté et la notion de transmission dans votre métier, alors à travers vos clients, mais aussi à travers l'expérience que vous avez eue en tant que professeur. Elle est importante, cette notion de transmission ?
Oui, c'est important pour les nouvelles générations aussi, d'avocats et de juristes, de savoir... comment on peut se remettre en cause à chaque fois et comment aussi, surtout, la formation est importante.
Oui.
Alors, ce n'est d'autant pas neutre que je suis membre du Conseil de l'Ordre au niveau du Barreau de Lille et que j'ai en charge, donc, maintenant, la commission formation professionnelle et que j'incite vivement tous mes confrères à revoir et à se former à de nouvelles discipline et tout ce qui peut effectivement améliorer le droit. Il y a aussi des outils à utiliser. Donc voilà, être prospectif et avancer.
Et avancer dans ce métier qui n'a pas fini d'évoluer. Alors Janine, vous le savez, on traverse une crise sanitaire assez importante alors en France et puis dans le monde entier. Aujourd'hui, les règles sont le confinement. Le confinement, Janine, pour vous, quel impact ça a sur votre manière de travailler ? Est-ce que vous êtes confinée chez vous ? Est-ce que vous avez pris le parti d'aller quand même sur place travailler, mais j'imagine sans contact client ? Comment ça se passe aujourd'hui pour vous dans votre cabinet?
Alors effectivement, je suis confinée chez moi, j'ai respecté la règle.
Oui.
Dans le cadre de mon cabinet, eh bien, cela faisait un bon moment que tout était digitalisé et donc je n'ai pas eu trop de problèmes, hein, puisque
ouais,
j'ai transporté mon ordinateur, voilà.
D'accord.
Donc j'ai en fait, j'utilise un logiciel de gestion de dossiers où toutes les coordonnées des clients sont rentrées dans ce logiciel, les
protégé.
Échanges avec les clients, voilà, tout est effectivement mis en sécurité et me suit, donc pas de difficulté particulière. La difficulté, c'est que à un moment donné, les tribunaux ont fermé, donc naturellement toute l'activité judiciaire est paralysée. Donc en fait, eh bien, j'ai réagi tout simplement en structurant deux axes.
Oui.
D'une part, eh bien, j'ai essayé de développer l'activité conseil, c'est-à-dire que à mes clients entrepreneurs, eh bien, j'ai proposé de profiter de ce temps mort justement pour revoir les contrats, rédiger les conditions générales de vente, leur politique de confidentialité en matière de données personnelles. Et puis, d'un autre côté, je me suis formée davantage ces derniers jours, puisque eh bien, j'ai lu tout ce que l'on met quelquefois de côté en disant « je le lirai quand j'aurai le temps ». Eh bien là, il y a effectivement les revues juridiques, les ressources en ligne m'ont permis effectivement de combler du temps et d'être encore plus à la page. Vous voyez, là, en attendant cette interview, j'étais en train de lire, par exemple, les derniers articles de la Quadrature du Net,
ouais,
qui est un esprit critique, hein, en matière de données personnelles. Donc voilà, donc le temps passe assez vite.
Oui, vous avez su rebondir pendant ce confinement pour axer votre travail sur d'autres choses, vous former, monter en compétences et puis aussi rester en contact avec vos clients dans tous les cas à travers votre ordinateur et vos logiciels. Aujourd'hui, par rapport à vos clients justement, est-ce que dans cette période, ils vous sollicitent beaucoup ? J'imagine que oui, puisque vous détenez pas mal d'informations sur les entreprises et peut-être sur ce qui va se passer. Est-ce qu'ils se tournent vers vous, vos clients, Janine ?
Alors, oui, mais il faut bien admettre que je pense qu'il y a eu un petit effet de sidération aussi à l'annonce de ce confinement et il a fallu gérer dans l'urgence, ouais, pas mal de choses. Donc, dans un premier temps, effectivement, je ne pense pas avoir été la priorité de mes clients qui ont d'abord dû organiser eh bien la fermeture de leurs établissements et surtout aussi par rapport à leurs salariés. Maintenant, comme je vous l'indique, effectivement, on essaie d'être prospectif et de gérer l'administratif en quelque sorte, parce qu'on met rarement le temps de regarder le contrat, d'étudier l'impact de tout cela. J'attire notamment l'attention sur le fait que, eh bien, il faut peut-être réfléchir à tout ce qui doit être prévu en cas de force majeure, puisque voilà, là, on va avoir des difficultés. Certaines entreprises vont voir des contrats annulés puisqu'ils n'ont pas pu remplir leurs obligations pendant cette période. Et donc, il faut réfléchir aussi à comment agir après et comment proposer des compensations.
Oui. Donc c'est vraiment cette prise de recul aussi et d'analyse par rapport à la situation un peu forcée, mais c'est prendre un peu d'élan pour mieux sauter au moment de la rentrée des classes, que, comme j'aime à le dire à la fin de ce confinement que vous prenez.
Mais c'est
en
une
fait.
Belle image.
Et donc vous prenez cette prise de recul pour améliorer sa société et puis penser à toutes les petites choses dont on n'a pas le temps en temps normal en fait.
Voilà, tout à fait. Il faut ne pas gâcher son temps, il faut regarder ce qui peut être fait pour le futur et stabiliser le présent.
Super. Eh ben, Janine, on a bien compris l'importance de s'entourer d'un avocat, en tout cas par rapport à la propriété intellectuelle, au dépôt de sa marque, de son logo. Donc, je vais inviter tous les entrepreneurs et puis les futurs entrepreneurs à se renseigner sur les services des avocats, puisque c'est très, très important, notamment pour le dépôt de marque, le dépôt d'un brevet ou bien rien que pour vos conditions générales de vente. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à accompagner son contrat de ses conditions générales de vente, et pourtant c'est ce qui vous protège auprès de clients ou de concurrents malveillants qui pourraient vous mettre
et
des fournisseurs qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Et on le sait, quand on crée son entreprise, c'est une partie de soi qu'on met là-dedans, donc quand quelqu'un vient nous attaquer là-dessus, ça pourrait nous faire très mal. Donc merci beaucoup Janine d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur LinkedIn, et puis vous avez un site internet aussi.
Tout à fait. Voilà, un site internet www.audegondavocat.fr.
Audegond, c'est AUDEGOND avocat. Ça, vous savez l'écrire normalement.fr. Merci beaucoup, Janine, d'avoir pris du temps avec nous cet après-midi sur
Merci
Success
Arnaud.
Radio. À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.